Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Europe Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Au sommaire, la victoire des Bleus en tournoi destination à Rome. On rejoint Axel May dans un petit instant. Ça commence bien pour le 15 de France. Le gouvernement recule, nous allons bouger. Annonce Elisabeth Borne ce matin en une du JDD. Bouger sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé tôt, très tôt à travailler, pourront partir à 63 ans et non 64. Une brique en moins dans l'architecture de la réforme. Oui, mais où va-t-on comme cela, sachant que d'autres, comme Laurent Berger, attendent qu'on enlève la pierre angulaire des 64 ans. Nous écouterons le gouvernement, les syndicats. Et à 18h15, question toute trouvée, Anne-Laure Blin, députée LR de Maine-et-Loire, va-t-elle voter la réforme en l'état ou va-t-elle voter contre ou s'abstenir comme elle l'a déjà fait sur plusieurs textes précédents? Nous lui poserons la question. En attendant, les différents opposants se préparent pour la journée d'action de mardi, les raffineurs en l'occurrence, ce qui incite les automobilistes à faire le plein par précaution, ce qui n'est pas forcément une bonne idée car c'est ça qui vide les stocks. On vous explique. Le ballon chinois au-dessus des États-Unis abattu par le Pentagone. L'état-major américain attendait que l'engin soit au-dessus de l'Atlantique pour limiter le danger provoqué par la chute de débris. Pékin mécontent ne s'interdit pas des représailles. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le sinologue de l'Institut Montaigne, François Godemant, nous répond dans quelques minutes. À suivre également les mondiaux de ski à Méribel. Dans 45 minutes, la cérémonie d'ouverture. Cyril de la Morinerie est sur place. Et la tendance météo, Valérie Darmon?
Eh bien, une belle journée qui s'annonce, excepté en Méditerranée, qui connaît quelques pluies et surtout du vent.
Météo complète, à la fin du journal, 18h30, ça fait débat, le communicant Jean-Xavier Arnaud et l'avocat Jean-Yves Le Borgne. 19h15, Constance Debré publie « Offense » chez Flammarion quand un roman remet en question la justice de la justice, vous comprendrez. 19h30, Panorama, Nicolas Destiendorf publie un dictionnaire du mauvais goût, soit, mais le mauvais goût c'est personnel. Alors ça valait bien un débat, le journaliste écrivain Frédéric Brun et l'influenceuse Constance de Champré viennent compléter le tableau puisque Nicolas Destiendorf sera là également. À tout à l'heure. Et d'abord donc direction Rome pour le tournoi destination et la France s'impose sur l'Italie 29-24. C'est une chose de faite pour le 15 de France, Axel May.
Oui, c'est une bonne chose de faite, mais dans la douleur pour les Français. Rendez-vous compte, les Italiens ont failli faire ce qu'ils n'avaient plus réussi depuis 10 ans, s'imposer face à la France. Et je dis ça en pesant mes mots parce que à l'heure de jeu, l'Italie passe devant la France. Il y a alors 24-22 pour l'Italie et c'est 22-21 pardon pour l'Italie et c'est ensuite Thomas Ramos sur une pénalité puis Jalibert qui permettra aux Français de s'imposer 29-24, score final. Donc les Français qui sont imposés, qui ont remporté leur premier match, mais attention parce que le week-end prochain ils seront en Irlande, l'Irlande nation numéro 1 au monde, nation qui a éparpillé à Cardiff les Gallois hier. Donc attention, attention mon cher Pierre, ce tournoi des destinations a bien commencé d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue sportif, on n'est pas très rassuré ce soir.
Et moi qui me réjouissais d'avance, merci beaucoup mon cher Axel pour toutes ces explications. Axel May en direct de Rome pour Europe 1. Entre 600 millions et 1 milliard d'euros, voilà ce que va coûter la reculade du gouvernement sur ce qu'on appelle communément les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans, 43 annuités contre 44. Elisabeth Borne l'annonce ce matin dans le JDD. Oui, mais alors là où on annonçait un totem, le voilà en train de tomber. Est-ce à dire qu'il y a une marge de négociation sur ce qui était présenté comme non négociable? Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, venez s'expliquer ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1.
On sera encore ouvert dans les jours prochains et nous accepterons des amendements, nous soutiendrons des amendements qui viendront de la majorité ou des oppositions. Nous voulons encore une fois améliorer ce texte. Ce que nous craignons finalement, c'est que les députés et nous-mêmes et les Français soient privés d'un débat de qualité à l'Assemblée nationale à cause de l'obstruction bête et méchante de la NUPES. Quand vous déposez 18 000 amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Vous voyez, ça sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font. C'est pas ça l'action parlementaire. Quand on s'accroche à son rôle de parlementaire, on dépose des amendements utiles, indispensables, qu'on défend à fond les ballons, sans rien lâcher. Là, 18 000 amendements, je peux vous dire, ça va empêcher d'aller examiner plusieurs articles essentiels de ce texte. Et vous savez, ce serait très facile après de dire on n'a pas eu assez de temps pour examiner le texte, vous nous avez privé de débat. Avec 18 000 amendements de la NUPES, il faudrait au moins 6 mois de débat dans l'hémicycle. Ça n'est jamais arrivé.
Olivier Véran au grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos. Un peu plus tard dans la matinée, Laurent Berger était l'invité de Questions politiques chez nos confrères du service public. Alors lui, ce qu'il attend, bah, ce sont les 64 ans.
On est face à une réforme qui prend le paramètre le plus injuste qui est l'âge et qui ensuite s'aperçoit que ce paramètre le plus injuste va créer des distorsions, va pas mettre fin, loin s'en faut, aux inégalités qui sont déjà existantes dans le système actuel, mais va les accentuer et essaye de mettre des rustines. Et quand on va mettre un rustine à un endroit, on va se dire oui, mais de l'autre côté, ça ne tient pas non plus, quoi. Donc, c'est clair, le problème de base de cette réforme, c'est le report de l'âge légal à 64 ans, qui accentue les inégalités inhérentes au monde du travail. Ces inégalités, c'est lesquelles ? C'est celles qui concernent les femmes, c'est celles qui concernent les gens qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui ont des carrières hachées, ceux qui sont virés de leur entreprise avant l'âge légal de départ en retraite. Je parle évidemment des seniors. Voilà.
Et demain, dans la matinale d'Europe 1, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui porte cette réforme, qui s'expliquera au micro de Sonia Mabrouk à 8h13. Le ministre de surcroît inquiété dans une affaire de favoritisme remontant à 2009. Nous, dans Europe Soir Weekend, avions envie d'avoir l'écho des LR qui, comme on le sait, sont divisés sur le vote de cette réforme. Les LR dont la majorité a besoin également pour que ce texte passe. La députée LR de Maine-et-Loire, Anne Lorblin, nous donnera son sentiment d'ici 10 minutes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vu l'envergure de la manifestation du 31 janvier dernier, c'est avec confiance que tous les opposants à cette réforme voient cette nouvelle mobilisation de mardi. Déjà, on sait que le trafic des TGV Ouigo sera fortement perturbé avec seulement un train sur deux pour les TGV, deux trains sur cinq pour les Ouigo. Au niveau régional, 3 TER sur 10. Toutes les régions seront touchées, précise la SNCF. Un métro sur trois en moyenne à Paris. Ajoutez à cela les profs, les agents publics. Un appel a été lancé aussi sur les remontées mécaniques en station et les raffineurs. Ce qui évidemment provoque la panique chez les automobilistes qui veulent éviter de revivre ce qu'ils ont connu en novembre, Lucie de Pertuis.
Oui, une journée de blocage des raffineries est déjà prévue ce mardi et certains automobilistes craignent de ne pas pouvoir prendre la route des vacances. Alors, ils anticipent, écoutez.
Je vais peut-être faire un plein un peu en avance avant de partir et essayer de ne pas trop utiliser la voiture avant le départ des vacances.
J'étais un peu inquiet quand j'ai entendu qu'il y avait des problèmes avec les raffineries, donc je suis allé faire le plein.
On va partir en voiture. On fait le pari que ça ira. J'aurai l'occasion de faire le plein ou d'être embêté s'il y a des soucis dans les raffineries. Ouais.
Inutile de vous ruer dans les stations-service pour faire le plein. Pour le moment, il n'y a pas de risque majeur de pénurie. C'est ce qu'explique Olivier Gantois. Il est président de l'UFIP Énergie et Mobilité, le syndicat professionnel de l'industrie pétrolière.
Quand la grève ne dure qu'une journée, les unités de production de carburant ne s'arrêtent pas et donc les livraisons qui n'ont pas lieu ce jour-là sont rattrapées dès le lendemain. Donc il n'y a pas eu de conséquences sur l'approvisionnement des stations-service. Si on n'a pas besoin de faire le plein cette semaine, ne pas aller en station-service de façon prématurée parce que c'est ça qui vide les stocks.
Mardi dernier, lors de l'acte 2, la CGT revendiquait 75 à 100% de grévistes mobilisés dans les raffineries du groupe Total.
Merci de ces précisions, Lucie de Pertuis. Et donc, vous l'avez compris, ce n'est pas la peine d'aller dans les stations parce que c'est comme ça que vous allez vider les stocks si votre voiture a actuellement le plein ou trois quarts de plein. J'apprends à l'instant par la DGAC, la délégation de l'aviation civile, la direction générale de l'aviation civile, que en ce qui concerne les grèves, on prévoit l'annulation d'un vol sur cinq mardi prochain. Puisqu'on parle de travail, parlons de l'alternance qui cartonne littéralement. Encouragée par les aides financières de l'État, les entreprises recrutent de plus en plus d'alternants. Fin 2022, ils étaient 1 million à être concernés par ce type de contrat, soit plus 400 000 par rapport à fin 2018. Barthélémy Philippe, ce phénomène a un impact sur la productivité du travail.
Oui, c'est ce que confirme une récente étude du ministère du Travail. Les contrats d'alternance représentent un emploi salarié sur trois créés depuis la fin 2019 et l'INSEE estime que le dynamisme de l'alternance a tout simplement divisé la croissance de la productivité par deux sur la même période, un phénomène logique selon l'économiste Bertrand Martineau.
Effectivement, le fait qu'il y ait des alternants qui travaillent à temps partiel et qui par ailleurs sont moins productifs que les autres parce qu'ils n'ont pas terminé leurs études et ils n'ont pas toutes les compétences, il est évident que ça joue. Vous rajoutez des salariés qui sont à temps partiel, donc ils produisent moins, et qui d'ailleurs produisent moins en productivité horaire, c'est-à-dire qu'ils sont moins efficaces.
Autre point important, le recours massif à l'alternance augmente mécaniquement le taux d'emploi des 15-24 ans, ce qui participe à faire baisser le chômage qui est à son plus bas niveau depuis 2009.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Dans les Vosges, 600 personnes réunies à Épinal en hommage au jeune Lucas, une marche blanche à la mémoire de ce jeune garçon de 13 ans qui s'est suicidé début janvier. Lucas a mis fin à ses jours victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Le drame en Autriche, 5 personnes retrouvées mortes ce matin après des avalanches à Saint-Anton. Au total, on compte 8 victimes pour ce week-end après des coulées de neige dans l'ouest du pays. 18h10, une pause et juste après, l'US Air Force abat le ballon chinois au-dessus du ciel américain. Et puis le début des mondiaux de ski à Courchevel. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Et le retour du journal à 18h12 sur Europe 1 avec le ballon chinois finalement abattu par les Américains ce matin. Un avion de l'US Air Force a suivi l'ordre du Pentagone et de Joe Biden et a procédé à la neutralisation de l'aéronef censé mesurer des données météo. La réaction chinoise ne s'est pas fait attendre. Bonsoir François Gaudemont.
Bonsoir.
Historien, sinologue, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne. Pékin exprime son fort mécontentement, proteste contre l'utilisation de la force sur les États-Unis et se réserve le droit de répliquer, pardonnez-moi, ça veut dire quoi quand on utilise le dictionnaire ?
Ça veut dire que Pékin s'accroche maintenant à l'idée que c'était un ballon purement météorologique, ce qui n'est pas sa déclaration précédente. Il dit que le ballon avait des fonctions essentiellement météorologiques. Mmh. Ils avaient laissé la porte ouverte. Là, il la referme vraisemblablement pour dire que c'est un aéronef civil, il s'est égaré, excusez-nous, il n'y avait pas de raison de l'abattre. Et surtout, je pense que cette attitude prélude peut-être un dévoilement et une offensive sur les moyens d'observation qu'ont les Américains, peut-être pas au-dessus de la Chine, sauf par les satellites, bien sûr, mais dans les parages de la Chine.
Certains disent que c'est assez concomitant à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan.
Moi, je pense que c'est une interprétation plus générale, sous Xi Jinping. Quels que soient les discours, parfois les belles paroles, il y en est entré depuis un mois dans une phase de dégel diplomatique de la part de la Chine, beaucoup moins agressif, mais dans les faits, et de façon souvent sous-jacente, non exprimée, l'agressivité continue. On a eu des offensives sur le Ladakh en Inde, on a des incursions à Taïwan, on a eu une reprise des incidents autour des îles Senkaku, Diaoyutai, qui sont occupés par les Japonais mais revendiqués par les Chinois. Et au fond, ce ballon qui n'est pas le premier, parce que le Pentagone lui-même dit que ce n'est pas le premier, c'est peut-être le premier à suivre cette trajectoire à travers tout le territoire américain, par contre. Ben, c'est une manière, quelque part, de laisser une carte de visite discrète en disant « mais nous sommes là ». Le mystère, c'est que est-ce qu'ils ont mesuré le risque pour Joe Biden s'il ne réagissait pas dans l'opinion publique, parce qu'un ballon de 30 mètres de diamètre qui se balade au-dessus de votre tête pour vous espionner, c'est quand même très parlant, c'est très symbolique. Par contre, je pense qu'elle comptait sur l'omerta américaine. Après tout, on n'avait jamais entendu parler des précédents ballons, ni au-dessus de Taïwan d'ailleurs, dont on apprend aujourd'hui qu'il y en a eu plusieurs. Mmh. Et donc, de façon hachée chinoise, assez habituelle, il comptait, par petits pas successifs, pousser toujours plus loin la ligne rouge. Et puis, un jour, ça s'arrête du côté américain, peut-être pas seulement à cause du ballon, peut-être pour d'autres raisons. Et cette visite du secrétaire d'État, Tony Blinken, qui était prévue, qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs aujourd'hui, est brusquement annulée. Les Américains ont réfléchi, il y avait probablement un débat. Et ils se sont dit, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle, il y a trop de signes.
Mais François Gaudemont, c'est quoi la suite? Parce qu'on ne peut pas rompre le dialogue, ne serait-ce que d'un point de vue commercial. Les deux pays sont beaucoup trop liés.
On ne l'a jamais rompu. Dans les faits, et je vous rappelle qu'il y a déjà eu, au moment de l'élection du président Bush, il y avait eu l'accident d'un chasseur chinois accrochant un avion d'écoute électronique américain hors de la zone territoriale chinoise. Hein, mais ça peut entraîner une guérilla juridique, comme les Chinois savent l'entretenir, sur le droit de passage innocent dans leur zone économique exclusive, sur le détroit de Taïwan, tout ça sert de justification. J'ai du mal à penser que ça va aller radicalement au-delà. Mais d'un autre côté, il y a d'autres signes d'animosité chinoise qui se font jour en ce moment. Le plus inquiétant, c'est que la Chine, désormais, et ses entreprises d'État, de haute technologie, ont livré des pièces détachées pour les chasseurs et les hélicoptères russes, ainsi que des équipements électroniques, donc ont enfreint les sanctions américaines que jusqu'ici ils affectaient sans le dire de respecter. Donc il y a peut-être un contentieux plus lourd qui est en train de reprendre son essor.
Merci beaucoup François Godemans, sinologue à l'Institut Montaigne, d'avoir été avec nous sur Europe 1. On passe au sport avec le foot et la 22e journée de Ligue 1. En ce moment, c'est Brest qui affronte le RC Lens. C'est toujours 0-0 à la 49e minute ce soir. Marseille-Nice à 20h45, à suivre bien évidemment dans Europe 1 Sport. Et puis toute une flopée de matchs qui se sont terminés dans l'après-midi. Monaco a battu Clermont 2-0, de même que Nantes Ajaccio, 0-0 entre Auxerre et Reims, et également un score nul entre Lorient et Angers, et Strasbourg a battu Montpellier 2-0. Le sport, c'est aussi le ski avec les Mondiaux 2023 dans les Trois-Vallées. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir à tous.
Vous êtes à Courchevel pour la cérémonie d'ouverture qui commence dans une petite demi-heure.
Exactement, et c'est la quatrième fois que la France organise les Mondiaux après Chamonix et Val d'Isère en 2009. 150 000 spectateurs attendus, et dans 45 minutes, en effet, cette cérémonie d'ouverture ici à Courchevel, avec au programme un son et lumière en 5 tableaux, avec la naissance des Alpes notamment. Et puis le dernier tableau, ce sera le Dance Floor, référence sans doute aux groupes de musique qui viendront tous les soirs se produire au pied de la piste. Alors, il fait froid, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la neige est très bonne. C'est une aubaine pour les premiers vacanciers que j'ai croisés dans la montée jusqu'ici à Courchevel. Et puis c'est une très bonne chose pour les skieurs dont vous faites partie, mon cher Pierre. Même si vous ne concourez pas pour ces Mondiaux, il y aura 600 athlètes qui vont représenter à 70 pays. Et on me souffle même que le Ghana, un représentant qui va tenter de se qualifier pour une course, on suivra ça. Côté français, très attendu, c'est l'enfant du pays, Alexis Pinturault, qui a grandi dans un hôtel en haut de la station, désormais tenu par sa sœur. Le triple médaillé olympique est en manque de résultats. Il est souffrant ce soir, il n'a pas participé à la conférence de presse. Des Bleus sans certitude, mais qui s'en remettront notamment à Tessa Worley qui disputera ici ses derniers Mondiaux.
Et on me parle d'une mascotte, d'un chamois paraît-il.
C'est exactement ça, vous êtes bien renseigné. C'est un chamois, il est magnifique, c'est un animal iconique, vous savez, des montagnes françaises. Et son nom c'est Toya, qui en patois local signifie victoire. Et le déguisement pour la petite histoire était cousu localement à Albertville.
Et ben voilà, tout ça c'est du made in France et on est content que ça se passe à Courchevel. Merci Cyril de la Morinerie en direct pour Europe 1. On termine par le ciel, Valérie Darmon, et le retour du soleil sur l'ouest.
Et non Pierre, il n'était pas mort le soleil. Pourtant on l'attendait depuis un moment sur la moitié nord. Il fait donc de nouvelles belles apparitions sur l'ouest ce lundi après la dissipation de la grisaille du matin. Les nuages qui restent juste nombreux sur les Pyrénées-Atlantiques et qui donnent quelques flocons. Plus à l'est, le ciel est plus nuageux en matinée dans la lignée de la nuit prochaine avec quelques brouillards, voire quelques flocons sur le massif des Vosges. Des chutes de neige sont aussi attendues sur les Alpes du Sud des 500 mètres, mais les éclaircies vont l'emporter sur tous les massifs alpins dans l'après-midi. C'est un clin d'œil aux vacanciers. En revanche, c'est couvert sur la Côte d'Azur et le vent souffle entre Corse et continent. Les minimales sont en baisse sans surprise avec quelques gelées et le retour surtout de ces gelées en plaine. Le thermomètre qui affiche moins 3 à 2 du nord-est à la Bretagne jusque dans le sud-ouest, 2 à 7 en bord de Méditerranée et les maximales qui affichent 5 à 9 degrés en général jusqu'à 12 sur les plaines de l'Atlantique et dans le sud-est.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant la politique, les Républicains vont-ils suivre la réforme des retraites qui arrive demain au Parlement ? Anne-Laure Blin, députée LR de Maine-et-Loire, est avec nous. À tout de suite.